allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du Brexit qui n'en finit pas, cette crise dans laquelle le Royaume-Uni est englouti depuis 3 ans pour sortir de l'Union européenne, c'est paradoxalement une fiction qui nous explique le mieux cette histoire géopolitique si complexe. Traduit en français sous le titre « Le cœur de l'Angleterre », ce roman est signé de l'écrivain britannique Jonathan Coe, auteur à succès des Deux côtés de la Manche avec entre autres « Testament à l'anglaise »,« Bienvenue au club » ou encore « La vie très privée de Mr. Sim ». Jonathan Coe, témoin de l'actualité chaotique de son pays, s'est demandé comment le référendum avait pu basculer du côté des séparatistes et quels effets cette division avait eu sur les gens ordinaires, comme ces personnages qu'il avait déjà mis en scène précédemment et qu'il reprend ici à l'âge de 50 ans. Brillant, mordant, ce roman est l'un des bonheurs de lecture de cette rentrée littéraire, surtout quand il est commenté par l'auteur lui-même, de passage à Paris, et que j'ai rencontré chez son éditeur français, Gallimard. Tout de suite, dialogue avec Jonathan Coe, le temps d'écouter quelques notes composées par lui, puisque l'écrivain est aussi musicien. Bonjour Jonathan Coe.
Bonjour.
Votre nouveau roman, traduit en français sous le titre « Le cœur de l'Angleterre », s'intitule en version originale « Middle England », qui peut aussi nous faire penser au « Middle Earth », l'univers littéraire que Tolkien a inventé, « Terre du milieu » pourrait-on dire en français. C'est un écrivain que vous citez d'ailleurs à quelques reprises dans ce roman. Est-ce qu'en effet, en écrivant la chronique du Brexit de ces 10 dernières années, vous aviez parfois l'impression de décrire un monde où la fantaisie, le fantastique, l'irréel peut-être avait pris le pas sur la réalité?
These days, I tend to regard Tolkien as a realist writer. You know, I know his books are full of elves and
je sais que chez Tolkien, il y a tout un tas de lutins, des anneaux magiques et tout un tas de choses, mais pour moi, le paysage qui m'intéresse, c'est The Shire. Pour moi, c'est ça, le cœur de l'Angleterre. La banlieue rurale de Birmingham, ville où j'ai grandi et où je me rends le plus souvent possible parce que ma famille et ma mère vivent là. Un paysage doux qui confère à ses habitants une nature paisible, conservatrice, quelque peu nostalgique. Et à mes yeux, ce lieu constitue l'une des parties du cœur des électeurs en faveur du Brexit. Donc, je me suis dit que ce livre n'allait pas se passer uniquement à Londres, mais qu'au contraire, il fallait que je décrive ce paysage de mon enfance qui se trouvait similaire à celui des paysages de Tolkien.
Et donc, quand vous avez commencé d'écrire ce roman, Jonathan Coe, je crois que c'était après le 24 juin 2016, qui est la date où le résultat du référendum était donc en faveur du Leave, quitter l'Union européenne. Est-ce que c'est la sidération du vote qui vous a convaincu d'écrire le livre, ou le citoyen que vous êtes et qui regardait la politique avait déjà l'intention de faire un livre, ou encore est-ce que ce sujet presque vous a rattrapé, l'histoire vous a rattrapé, vous a permis de faire ce que vous appréciez particulièrement en littérature, mêler l'intime et le politique, le singulier et le collectif à travers ces histoires ici dans ce roman.
The idea for the book came in stages.
L'idée de ce livre m'est venue par étapes au cours de l'année 2016. Je suis allé voir une pièce qui était une adaptation d'un roman que j'ai écrit qui s'appelait Bienvenue au Club. Cette pièce de théâtre a été une source d'inspiration énorme pour moi. J'ai vu sur scène mes personnages de Bienvenue au Club. Ça m'a donné une sensation de réalité. Et je me suis dit que j'allais à nouveau les faire revivre dans un nouveau roman. En même temps, mon éditeur chez Penguin m'appelait régulièrement et me parlait de la campagne de ce référendum et on parlait de choses incroyables qu'il se passait en Angleterre. Et mon éditeur m'a dit, il faut que tu écrives sur ce sujet, c'est toi qui dois écrire à propos de ça. Je n'y ai pas pensé plus que cela et tout à coup je me suis dit, mais voilà, je vais prendre ces vieux personnages de Bienvenue au Club et je vais les faire vivre cette expérience. C'est ainsi que je peux mêler un sujet politique, le référendum du Brexit, dans la vie réelle, dans l'humanité.
You know, there's no subject for me in the dry technical aspects of Brexit.
Brexit, c'est un sujet aride, trop sec pour moi pour être traité par le romancier que je suis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments des gens, comment les gens réagissent à l'environnement, comment les gens réagissent au référendum. En réalité, tout ce débat du référendum a été tiré par des considérations émotionnelles. Les choses abstraites sont ennuyeuses, mais les gens s'investissaient sur le plan émotionnel dans cette question du Brexit, notamment s'agissant de l'identité nationale, qui est une question centrale dans ce débat du Brexit. Et là, je me suis dit, voilà, ça y est, je tiens un sujet de roman.
Et en effet, comme vous venez de le dire, Jonathan Coe, pour incarner cette histoire politique, vous renouez avec des personnages que vous aviez déjà créé dans deux romans précédents et qui avaient été témoins des années 70, 80, 90, à savoir essentiellement Benjamin Trotter, qui est un écrivain aspirant, également sa sœur Lois, Doug, qui est un journaliste politique, Philip, qui est éditeur, auquel s'ajoute Charlie, qui est un ami devenu clown, Elena, une vieille femme très conservatrice et raciste, Grete, lituanienne, Emma, une transsexuelle, et puis ensuite Sohan, par exemple, qui est un universitaire brillant, qui épouse un jeune garçon qui a fait fortune. Mais Sohan, on lui renvoie toujours ses origines pakistanaises, alors que lui se sent définitivement anglais. Que représentent pour vous tous ces personnages ? Est-ce que c'est en effet un panel de la société britannique ?
Le référendum nous a fait prendre conscience de l'incroyable diversité de la société britannique. Diversité
qui
inévitablement donne lieu à des frictions, des conflits. Et moi, je voulais des personnages qui puissent représenter le plus grand nombre possible de points de vue, qui représentent les origines, les tempéraments les plus divers qui soient. Parce que pour moi, c'était la seule façon d'être fidèle à la complexité du débat sur le Brexit. En même temps, je voulais rester simple et avoir au cœur du roman un couple marié qui sont des gens différents à presque tous les égards, pourtant sont attirés l'un par l'autre et d'une façon ou d'une autre il faut qu'ils vivent ensemble. Et là je veux représenter les deux aspects du clivage du Brexit entre ceux qui veulent quitter l'Union européenne et ceux qui veulent rester. Donc il y a Sophie et Ian.
But all around in every chapter
et
you have
dans tous les chapitres
dozens and dozens
il y a
secondary characters,
des dizaines de personnages secondaires qui sont censés refléter les autres aspects de la société et de la vie britannique.
Et dans cette diversité d'opinions, de classes sociales, d'activités professionnelles, où êtes-vous, vous, Jonathan Coe? Par exemple, quand Benjamin dit « merde au Brexit », est-ce que c'est un peu vous aussi qui poussez ce cri d'alarme ?
My objective in this novel as narrator was to disappear.
Mon dessein en tant que narrateur était de disparaître.
To keep my own point of view as
mon point de vue, je veux le garder aussi discret que possible. Je ne veux pas le laisser transparaître. Mais, bien entendu, Benjamin, dans les trois romans, est une sorte d'alter ego. Je suis très proche de Benjamin.
Every time I write about him, I exaggerate
mais évidemment,
his failings for comic effect.
J'appuie le trait. Donc, ce n'est que dans le tout dernier chapitre que je perds la maîtrise de la situation et que je permets à Benjamin de s'exprimer sur le Brexit et de dire merde au Brexit. Donc, après avoir habité tous ces différents points de vue pendant l'ensemble du roman et avoir eu de l'empathie pour tous ces personnages, j'ai pas pu m'empêcher de donner mon point de vue.
On sent en effet que c'est un soulagement après 500 pages de lutte, puisque, rappelons-le pour nos auditeurs, vous racontez de 2010 à 2016 cette succession de malentendus, de maladresses, d'accidents du gouvernement qui décide de faire ce référendum sur ce Brexit sans mesurer les conséquences. D'ailleurs, c'est intéressant, ça commence en 2010 et ça s'ouvre aussi dans la sphère familiale par un enterrement. Donc, on est en train d'entrer dans une époque de grande tristesse. Est-ce que Jonathan Cove, vous en voulez encore à David Cameron, qui était le Premier ministre à l'époque, d'avoir décidé de façon assez inconsidérée, finalement, ce référendum ?
I'm a very forgiving person.
Ah, moi je suis
I always try to see the best in
people. Plein de bonté. J'essaye toujours de voir le meilleur aspect des choses chez les gens. Je sais pardonner.
David Cameron was very careless, I think.
Je crois que David Cameron a présenté et organisé le référendum sans se soucier du lendemain. Il y avait dans sa démarche une certaine arrogance. Et on retrouve ça dans la haute société anglaise. Vous savez, l'amateur éclairé qui n'a pas besoin de se soucier des basses besognes. Et son hypothèse était très claire. Il pensait que le peuple britannique allait être raisonnable et suivre ses instructions et voter pour rester. Et puis ensuite, ce sujet serait mis de côté.
So I think the worst he was guilty of was a kind of carelessness. But
en réalité, on peut lui reprocher surtout de ne pas avoir veillé au lendemain. Comme le dit son assistante à la communication, il a cassé un pays et il s'est enfui.
Now, you know, I wonder whether he did
aujourd'hui, rétrospectivement, je me demande s'il a bien fait de démissionner le lendemain du résultat. Il aurait peut-être pu rester pour nettoyer les dégâts. Il a été très rapide dans sa démission. Boris Johnson, lui, il a voulu suspendre le Parlement, la Cour suprême du Royaume-Uni a décidé qu'il n'en était pas question, et lui, pourtant, il ne présente pas d'excuses. Il ne démissionne pas.
Vous citez Boris Johnson et l'actualité immédiate que nous vivons ici à Paris et ce qui se passe au Parlement. Et c'est vrai que la situation semble encore un peu chaotique, pour le moins. En tout cas, ce que l'on voit dans votre roman, Jonathan Cove, c'est les effets très concret et négatif que ce Brexit a sur la vie intime, personnelle de vos personnages et des conséquences terribles, à savoir une députée assassinée, des couples qui se séparent, même si, des bagarres, des gens se battent au sens physique du terme, des ruptures entre familles. Est-ce que vous aussi, dans votre entourage, vous avez connu des divisions ? Est-ce que vous vous êtes fâché avec des amis, par exemple, à cause du Brexit ?
À vous
dire, je ne me suis pas beaucoup disputé avec mes amis à propos du Brexit. La raison est simple, c'est que dès que le sujet surgit dans la conversation, eh bien, on change de sujet, on parle d'autre chose. C'est ça qui est intéressant et difficile. le Brexit nous a fait prendre conscience qu'il faut avoir des conversations qui sont difficiles, voire impossibles. En effet, lorsque l'on commence à parler du Brexit avec quelqu'un qui n'a pas votre avis, eh bien, on s'aperçoit que on touche des sujets beaucoup plus profonds. En fait, le pays n'est pas clivé entre des gens qui ont des opinions différentes. Le vote a clivé le pays entre des gens qui ont des personnalités différentes, des façons de considération identitaire différentes. À l'époque, la question semblait binaire lorsqu'elle a été posée par Cameron. Mais Cameron posait une question beaucoup plus difficile. Quel genre de personne êtes-vous? Et quel genre de pays voulez-vous? À quel pays voulez-vous appartenir? Et ça, ce sont des questions plus difficiles.
J'ai remarqué depuis le début de cette émission, Jonathan Coe, que jamais vous ne répondez oui ou non à mes questions, comme si vous aviez un rejet justement du système binaire et que vous préfériez entretenir la nuance, l'argumentation. Est-ce que c'est le cas?
Les questions auxquelles on peut répondre oui ou non sont rares,
in my opinion,
à mon avis.
Néanmoins,
les débats sont menés de telle sorte qu'on cherche le choix binaire. Partir, rester, c'est complètement binaire. Moi, j'ai voté pour rester dans l'Union européenne, bien évidemment. Mais ça ne signifie pas que mon opinion soit simpliste sur la question. Ça ne signifie pas que j'adhère à l'Union européenne. Un des personnages doit écrire un article en 50 mots et il passe le week-end à se documenter pour pouvoir y parvenir. Très difficile de répondre à certaines questions. Bien évidemment, lorsqu'il faut mettre un bulletin dans l'urne, là, il faut faire un choix. Et là, c'est binaire. Les réseaux sociaux cherchent toujours à liker ou à disliker, aimer ou ne pas aimer. Moi, personnellement, je suis de plus en plus attiré par les zones de gris, les nuances entre les deux possibilités. Parce que c'est là que se trouve la vérité, à mon sens. Et évidemment, les romans sont particulièrement bien armés pour explorer les nuances. Si tout est binaire, on n'a pas besoin de littérature.
Est-ce que d'une certaine façon, ce roman est l'adieu à la vieille Angleterre, à l'image de la chanson de Charlie Collins que vous citez?
Cette chanson, je l'ai entendue pour la première fois il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ou 12 ans.
And both the words and the melody,
les paroles et la mélodie m'ont immédiatement touché. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il faudrait que j'utilise cette chanson dans un roman. En effet, c'est une chanson qui traite des thèmes que j'utilise dans mes romans. C'est en quelque sorte la bande originale de mes livres. Donc j'ai attendu le moment le plus opportun pour utiliser cette chanson, et lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis dit, voilà, adieu à la vieille Angleterre. Et c'est là qu'il faut que j'utilise cette chanson. Cela me plaît parce que c'est une chanson qui parle de la nostalgie. Et la nostalgie a toujours constitué un thème très important dans mes livres. Et aujourd'hui, la nostalgie, c'est un thème important dans le domaine de la politique aussi. Prenez Trump ou les électeurs en faveur du Brexit, ces gens-là pensent que c'était mieux avant, qui est une façon de penser très simpliste, bien que ce soit réconfortant que de le penser peut-être.
the attitude I've come to have towards nostalgia,
moi,
whether things were better in the past or not,
mon attitude envers la nostalgie,
you can't return to the past anyway, and the problems we have.
C'est qu'en fait, c'est pas la peine de se soucier de cette question de savoir si les choses sont mieux passées, parce que de toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière.
When Benjamin listens
lorsque Benjamin écoute la chanson à la fin du roman,
after he's moved to France,
après avoir déménagé en France,
you know, I'm criticizing him.
Je le critique en quelque sorte.
Because he's looking back.
Parce que lui, il regarde en arrière. Il a de la nostalgie pour l'Angleterre de son enfance. Une Angleterre.
The situation in his own life, but the politics of the country were more to his taste.
La situation était sans doute meilleure.
It's nice that he has these good memories.
Et il a ses souvenirs. C'est très bien, mais en réalité, il ne peut pas revenir en arrière.
And we have to find a way forward.
Nous devons aller de l'avant.
So the book is a critique of nostalgia.
Donc, le roman, c'est une critique de la nostalgie. Et c'est pourquoi j'utilise cette chanson.
Beautiful though her expression of nostalgia is.
Son expression de la nostalgie est très belle, mais ça ne nous aide pas beaucoup.
Adieu to old England, adieu, and adieu to some hundreds of pounds. If the world had been ended when I had been young, my sorrows I'd never have known. Once I could drink of the best, the very best brandy and rum. Now I'm glad of a cup of spring water that flows from town to town. Once I could eat of good bread that was made of good wheat. Now I'm glad with a hard moldy crust. I'm glad that I got it to eat.
Littérature sans frontières.
Once I could lie on a good bed that was made of soft down.
Nous sommes donc toujours en compagnie aujourd'hui de l'écrivain britannique Jonathan Coe, avec qui nous parlons de ce roman traduit en français sous le titre Le cœur de l'Angleterre. On l'a dit, c'est la chronique des années 2000, marquée par l'avant et l'après-Brexit, cette sortie de l'Union européenne racontée de plusieurs points de vue, dont Benjamin Trotter, qui est écrivain, mais un écrivain différent de vous, Jonathan Coe, même si tout à l'heure vous nous disiez que c'était un peu votre alter ego, puisque lui, il publie son premier roman, qui raconte quelque chose de très autobiographique, ce que vous ne faites jamais, en l'occurrence son obsession d'un amour de jeunesse. Il est nostalgique, vous venez de nous dire que vous n'étiez pas dans cet état d'esprit. Et votre personnage, Benjamin, a envie d'aller s'installer en France. Est-ce que vous aussi, Jonathan Coe, vous pourriez avoir cette tentation de venir vivre en France?
Well, the final chapter of the book is different to the rest of the book, to my mind.
It has a different kind of texture. Reste du livre.
It's a sort of fantasy.
C'est une sorte de
and a lot of English people
fantasy.
Have a fantasy idea of France.
Et
as I do myself.
Les Britanniques ont, pour la plupart, une idée fantasmatique de la France. La France est un fantasme, et donc Benjamin, je le plonge dans une France idyllique. Il y a un vieux moulin, il y a un cours d'eau, les amis se rassemblent pour faire la fête.
Et
tout à coup, le livre n'est plus un compte-rendu réaliste de l'histoire contemporaine de la Grande-Bretagne. On est dans un monde beaucoup plus comparable à une fantaisie de Shakespeare, comédie de Shakespeare. Donc j'utilise la France dans mon roman comme métaphore, une sorte de mythologie. Donc un fantasme permettant aux Britanniques de s'enfuir de l'Angleterre qui pose tant de problèmes. Évidemment, ce n'est pas la réalité. Tous les pays européens ou de l'Occident sont des pays où il y a des gens frustrés. Nous, nous avons le Brexit. Vous, en France, vous avez les Gilets jaunes, par exemple. Et les gens qui ont lu mon roman dans d'autres pays, que ce soit en Italie ou ailleurs, me disent... Oui, je pourrais écrire à propos de leur propre pays. Chaque pays a son problème. Bien que nous, en Grande-Bretagne, nous ayons pris une décision assez étrange qui consiste à canaliser toutes nos frustrations sur un seul problème, une seule question, celle de l'appartenance ou non à l'Union européenne. Alors qu'il y a des crises qui prennent différentes formes dans le monde occidental.
En tout cas, vous pourriez vous installer en France puisque votre roman Au cœur de l'Angleterre a été élu roman préféré étranger des libraires français. Vous êtes extrêmement aimé ici. Je crois que votre livre aussi a eu beaucoup de succès en Angleterre, preuve qu'on a envie de comprendre avec vous ce qui se passe dans notre Europe. Et d'ailleurs, la fin du roman est une grande scène autour d'une table avec 6 Anglais, 2 Lituaniens, 1 Italien, 1 Français. C'est une petite Europe, idéalement, autour d'une bonne table avec du bon vin. Vous rêvez encore européen, Jonathan Coe?
I feel very European.
Moi, je me sens très européen. Ça a toujours été le cas. Mais en même temps, je me sens très britannique, très anglais. Nous avons évoqué la difficulté qu'il y a à opérer des choix binaires. Je ne crois pas qu'il faille faire un choix entre être anglais ou être européen. La question identitaire est une question complexe. Et là, ce n'est pas un choix binaire qu'il faut opérer. Je peux dire à mes lecteurs, français en particulier, qu'il y a de nombreux Anglais qui se sentent encore très européens et qui sont particulièrement tristes de l'affaiblissement de cette identité européenne. Elle a été violée par... ce vote consistant à vouloir quitter l'Union européenne. Souvenons-nous que c'est 52% seulement des gens qui ont voté pour quitter l'Union européenne. Et s'il y a un aspect positif qui est ressorti de cette expérience du Brexit, c'est que il y a de plus en plus de Britanniques qui sont conscients de l'importance de l'identité européenne. C'est l'ironie du sort, mais nous ressentons cela très fortement en Grande-Bretagne.
Et si le roman s'est ouvert sur des funérailles, il se finit sur une naissance à venir. Une fin optimiste à laquelle vous teniez, Jonathan Coe, même si le Brexit n'est toujours pas résolu.
Je crois que c'est très important de rester optimiste. C'est trop facile de générer du désespoir dans l'esprit du lecteur, de présenter une situation de telle sorte qu'on a l'impression qu'elle ne peut pas être résolue. Donc, fondamentalement, dans mon fort intérieur, je reste optimiste. À court terme, la situation britannique dans les mois à venir ou années à venir, là, je ne suis pas si optimiste que cela, parce que là, je crois que nous sommes mis dans un pétrin incroyable. Et nos dirigeants, de part et d'autre, du monde politique, ne sont pas à la hauteur. Donc, la Grande-Bretagne est en difficulté. En tant que citoyen britannique, je suis très déçu. En tant qu'écrivain, mais je fais avec.
Donc bravo à l'écrivain et good luck pour vous, citoyens.
Oui, merci, on a besoin de chance.
Et on a
oui.
besoin de lire. Merci infiniment, Jonathan Coe, de nous avoir parlé si longuement des enjeux de ce roman magnifique, intitulé Le cœur de l'Angleterre aux éditions Gallimard, qui a été traduit par José Camoun en français.
A magnificent translator.
Merci beaucoup à Xavier Combes, qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Et merci à Richard Riffono, qui a enregistré cette émission ici chez votre éditeur français, Gallimard.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.